dans la discipline de l'Église par rapport aux protestants, un orthodoxe qui n'aurait pas d'Église orthodoxe, qui serait dans une nécessité spirituelle de communier. Depuis le code de 1983, il peut communier à une messe catholique. Il faut qu'il soit, dans les meilleures dispositions qui soient, et dans une sorte de nécessité spirituelle.
Et nous, chez eux ?
Et nous, si nous n'avons pas de messe catholique pendant longtemps, si nous sommes dans un grand désir de communier, il nous est permis de communier chez les orthodoxes. Je peux vous assurer que si on repère que vous êtes un catholique et que vous approchez de la communion dans une église orthodoxe, vous risquez d'avoir des petites aventures. Mais parce qu'il y a des prêtres orthodoxes qui rigolent absolument pas là-dessus, hein, et qui ne vous permettra pas de communier parce que vous êtes un affreux, pas gentil. Voilà.
Et avec une dernière, et avec la fraternité Saint-Pédis, si on va à une messe...
Avec la fraternité Saint-Pédis, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faudrait que je vous fasse toute l'historique et de savoir s'il y a schisme, s'il n'y a pas schisme, pourquoi ils ont maintenant les pouvoirs de confesser, pourquoi maintenant on peut leur donner la permission de recevoir les consentements dans le mariage. C'est un peu compliqué.
Vous avez entendu que c'était licite, je n'ai pas entendu.
Ah, si, c'est l'inverse. C'est valide, mais peut-être pas licite. Parce que, en fait, voyez-vous, la communion, elle est toujours vraie. On reçoit toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, est-ce qu'on le reçoit dignement? C'est la question. Vous avez un protestant. Eh bien, figurez-vous que dans le droit canonique, il est permis à un protestant de communier. Alors c'est quoi comme protestant? C'est un protestant très particulier, parce qu'il doit croire dans le code de 1983. Un protestant peut communier en cas de grave nécessité. S'il croit en la présence réelle, s'il a la foi catholique vis-à-vis de l'Eucharistie, alors on dit, est-il encore protestant? Mais bon, on lui demande de croire en la présence réelle. À la limite, on lui demande de plus être protestant. C'est pas très bon, c'est comme ça. Donc on lui demande de croire en la présence réelle, hein, et d'être dans les dispositions pour la communion. Donc quelles sont ces dispositions, vu qu'il ne se confesse pas habituellement en tant que protestant? Eh bien, c'est la contrition parfaite. Donc, commentaires des plus conservateurs vont dire, bon, eh bien, en péril de mort, éventuellement, on pourra donner la communion à un protestant qui la demande. Ça, c'est vraiment très, très restrictif. Alors, quand, si un protestant qui a une messe et qui n'est pas en train de mourir, eh bien, en soi, c'est parce qu'il se convertit, en quelque sorte, qu'il peut communier. C'est extraordinaire. Il est là, il dit, Jésus, vous êtes présent dans la Sainte Eucharistie, et je regrette tous mes péchés, et je me confesserai dès que possible. Ah, ça ira. Voilà. Théoriquement, dans la théologie catholique, c'est seulement dans ces conditions qu'il peut communier. L'orthodoxe, lui... Comme il croit en la présence réelle, c'est déjà une chose. Comme il se confesse. Et figurez-vous que dans les coutumes orthodoxes, la plupart du temps, systématiquement, il se confesse avant de communier. C'est-à-dire qu'il ne communie pas à toutes les messes auxquelles ils assistent. S'ils n'ont pas pu se confesser, ils ne communient pas. Mais même une pieuse femme qui va à la messe tous les dimanches, parce qu'ils n'ont pas forcément la messe en semaine, les orthodoxes, eh bien, si elle veut communier... Elle doit se confesser. Ben non, c'est une coutume. Alors c'est peut-être plus rapide, hein, parce que vous avez des prêtres bavards, des prêtres à questions chez les latins, hein, chez les orientaux, ça doit être, j'ai frappé mon mari, j'ai été jalouse de ma voisine, tac. Bon, vous ferez, 3 chemins de croix. Par contre, les pénitences sont extrêmement lourdes chez les orthodoxes. C'est pour ça qu'il y en a... ils ne communient pas énormément, les orthodoxes. Parce qu'ils ont la coutume... Ils ont la coutume de se confesser avant chaque communion, et les pénitences sont inspirés de la vie monastique. Donc, c'est par exemple, vous ferez vous ferez trois chemins de croix, où vous direz 50 fois, Christ et Fili Dei Vivi Miserere, ô Christ, Fille du Dieu vivant, ayez pitié de moi, les bras en croix, après avoir trois fois l'hymne à la Vierge Marie, enfin. Ça vous prend au moins une demi-heure, une pénitence orientale. Et c'est vrai chez les catholiques, c'est les orientaux, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient orthodoxes. Alors du coup, nous, les latins, quelles sont nos conditions pour communier? Les conditions pour communier, c'est donc de croire en la présence réelle. Première chose. Pour vous donner pour simplifier les choses et pour vous dire par rapport à mon expérience, je reprends les quatre fins de la prière. On adore notre Seigneur. On reconnaît qu'il est là, qu'il est présent et qu'il nous a sauvés, qu'il est mort pour nous, qu'il est Dieu. Première condition, l'adoration, la reconnaissance de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que lorsque... pendant des années, si un prêtre vous dit « mais c'est du pain, mais c'est du pain, mais c'est du pain », vous voyez, c'est terrible. Parce que les personnes qui communient en pensant que c'est du pain, c'est sûr que c'est embêtant. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas de leur faute, puisqu'on n'aura pas on n'a pas arrêté de leur dire « c'est du pain, c'est du pain, c'est du pain ». C'est un repas partagé, c'est un repas partagé. Vous voyez ? Alors là, mais notre Seigneur, lorsque le prêtre a l'intention droite de faire ce que veut faire l'Église, eh bien, il y a consécration. Même s'il est distrait, même s'il n'est pas pieux, même s'il est en état de péché mortel, même si c'est une crapule finie, il y a consécration. Parce que notre Seigneur, lui, veut offrir son sacrifice, quelle que soit la dignité et les mérites du prêtre. Quand c'est le Padre Pio, Jésus, il est content. Et là, il descend sur l'autel avec un prêtre qu'il aime beaucoup et tout ça. Il s'était plaint dans les années 20, je crois, 10, ou dans les années 50, mais je crois que c'était bien avant, dans les années 20-10. Jésus apparaît au Padre Pio, il lui parle et lui dit, se plaint, il est dans une tristesse, il lui dit, regarde, et il lui montre les prêtres. Il lui montre des prêtres en train de célébrer. Donc ils disent la messe traditionnelle, avec les ornements, tout. Regarde-les, ils célèbrent comme des bouchers. Et donc avec indifférence. Et, voyons, dans les années 20, 10, 30 ou même 50, c'est sévère. Donc l'adoration, notre Seigneur, il est vraiment là. Ensuite, l'action de grâce. C'est-à-dire qu'on... On remercie notre Seigneur de se donner à nous. On l'adore, on le loue, on le remercie. Enfin, si vous voulez, ce sont les dispositions de louange comme un charismatique. Dieu est merveilleux, c'est extraordinaire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Voilà. Mais on doit avoir ces dispositions. Hein, mais si vous commencez à faire ça... juste avant de communier, il y aura la troisième condition. C'est d'être contrit des fautes que nous avons pu faire. C'est là que se place le scrupule. Voyez. Donc, est-ce que je regrette suffisamment mes péchés? Alors, à quelles conditions on a la contrition? Conterrer, c'est écraser, vous voyez. Vous écrasez vos péchés comme on écrase des grains de café moulus. Alors que comment on les écrase, vous voyez? Mais je ne les ai pas écrasés, ils sont encore en morceaux, en gros morceaux. Notre Seigneur, à l'impossible, nul n'est tenu. Voyez, il nous a donné la confession. Qu'est-ce que la confession? C'est un sacrement qui nous assure... que Dieu nous pardonne. Donc le scrupuleux, lui, il croit pas ce que dit le prêtre. Hein? Ego te absolvo. Hein? Moi, je te pardonne au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mais non, vous ne pouvez pas. Parce que mes péchés sont immenses, la grâce de Dieu est impuissante à me pardonner, je suis Lucifer, je suis un démon. Voilà. Voyons, la vache. Non, je ne suis pas un être humain, en fait, je suis un pur esprit qui a péché, et mon péché est irrémissible. Voyez. J'ai aucun regret, finalement. Je ne me sens pas regretté. Ah bon? Et quel est votre pouls en ce moment? Oui, parce que puisqu'on se sent dans le regret ou pas dans le regret, donc ça se sent le regret ou ça sent le brûlé, enfin je sais pas, puisque vous ne sentez pas le regret, il faut qu'il y ait une odeur, ou je sais pas. Voyez-vous, c'est pas une question de sentiment, le regret. On exprime ce regret. Moi, quand en confession, en 17 ans de confession, quelqu'un me dit, ben, je le regrette pas, eh bien, oh, vous allez faire partie de la 7e ou 8e personne sur quelques milliers de confessions que j'ai pu faire dans ma vie à qui je ne vais pas donner l'absolution. Youpi, un cas d'espèce. Non, on est triste. On veut donner l'absolution. Mais si quelqu'un vous dit expressément, au fait, j'ai fait ça et je le regrette pas du tout, ben là, on est coincé. On peut faire de la magie. À goût, à goût, à goût, je te pardonne tes péchés. Mais ça ne sert à rien. Pourquoi? Ben parce qu'il faut un minimum de regret. Vous voyez? De concasser nos péchés, de les détester, de les réduire en poudre et de les disperser au vent. Vous voyez? Alors on se dit, la contrition imparfaite, vous voyez? Ou attrition, vous voyez? Ça suffit pour avoir le pardon de Dieu? Oui. Dans la confession, le fait de regretter, même si on n'a pas l'impression d'être très 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 triste d'avoir fait ce qu'on a fait, ou si justement on se dit « mais je fais toujours les mêmes péchés, à quoi ça sert ?» Ça doit barber profondément et ennuyer profondément le prêtre qui entend ça, qu'est-ce que ça peut faire finalement? Pourquoi il me le demande? Eh bien parce qu'on se lave les mains, si vous voulez, on se lave les cheveux. Si vous êtes un jour lassé de vous laver les cheveux, oh là là là, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours, attention, hein. Toutes les semaines, ça va commencer à se voir. Hein. Et les mains, tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours, je ne sais pas si vous pourrez même encore fermer vos poings, voyez, mais donc... On ne se lasse pas. Eh bien, une âme, on ne se lasse pas de dire, ses faiblesses. Et dans l'ancien temps, voyez-vous, les hommes, les femmes, se confessaient parce qu'on leur disait qu'il fallait s'approcher de Dieu et communier à Pâques. Mais eux, ils avaient un catéchisme net et clair. Donc ils savaient que s'approcher du Dieu vivant, il fallait être vrai et authentique. Donc celui qui allait au bistrot au 19e siècle, tous les dimanches, jusqu'au sermon, qui venait avec des pieds de plomb rejoindre son épouse, enfin, je sais pas, des images d'épinal d'hommes épais qui n'étaient pas d'une piété délirante, eh bien ils faisaient quand même leur Pâques. Et quand ils faisaient leur Pâques, ils savaient qu'il fallait qu'ils se confessent. Et l'Église, du coup, a placé comme règle de sincérité de se confesser au moins une fois par an. Si on ne se confesse pas au moins une fois par an, on est présumé en état de péché grave. Présumé. Si ça se trouve, vous n'avez rien fait de grave. Alors vous pouvez... communier. Mais, si vous voulez, on présume que si vous ne vous êtes pas confessé pendant un an, c'est que vous êtes dans une tiédeur grave. Et il y a un commandement de l'Église qui oblige. Mais, voyez-vous, vous devez vous confesser au moins une fois par an. C'est un commandement de l'Église. Il est guère plus enseigné de nos jours. Il existe encore. Hein. Ce qui fait que si vous êtes quelqu'un d'assez calme, régulier, et Eh bien, vous pouvez vous confesser à Noël et communier à Pâques. Vous pouvez vous confesser en juillet et communier à Pâques. Et si vous voulez, si on se confesse, c'est pour être en grande sincérité avec notre Seigneur Jésus-Christ et avec Dieu. Comme lorsqu'on regrette ses fautes et on reconnaît ses torts vis-à-vis de quelqu'un qu'on aime. Et cette personne nous pardonne parce qu'on a l'humilité de reconnaître nos torts. Eh bien, l'Église vous demande de vous confesser une fois par an et l'Église vous demande de communier une fois par an. Et quand ? En 1215, si mes souvenirs sont exacts, ou 1274, Latran IV, l'Église dit, mais les gens communient même pas une fois par an. Donc on donne le commandement à tout baptisé de communier au moins une fois par an à Pâques. 15 jours, entre 15 jours avant Pâques et 15 jours après Pâques, c'est faire ses Pâques. Et puis on a étendu au début du carême et à... au Pâques fleuri, je ne sais plus, jusqu'à l'Ascension. Là, maintenant, on a 2 mois pour communier, mais on doit communier. Alors, si on doit communier, c'est-à-dire qu'on doit se mettre en état de communier. Et si on n'est pas en état de communier, eh bien, on reste dans son péché et on est averti qu'on est dans le péché. Ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas se mettre en état de communier. Voilà ce que dit l'Église. Alors, les malins, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils se rangent les voitures, c'est de l'argot, enfin, ils arrêtent de faire des péchés graves ou autres une heure avant de se confesser. Hein. Ils se confessent et ils communient dans la foulée, dans le temps pascal. Sinon, c'est pas drôle pour eux, qui font le minimum. Du coup, ils se confessent à Pâques. Et ils communient à Pâques, et ils sont tranquilles, et ils ont accompli les commandements d'Église. Mais la coutume et la piété a fait qu'on communie beaucoup plus souvent. Et de nos jours, alors là c'est du délire, depuis les années 70, on communie tout le temps. Donc voilà, à chaque fois qu'on va à la messe, on doit communier. Et si on ne se lève pas pour aller communier, mais qu'est-ce qu'il a ? Il est malade ? Il a la nausée peut-être, il a peur de vomir après avoir communié, ou il a mangé un sandwich juste avant la messe. Parce que le jeûne eucharistique, qui est une des conditions de la communion, est indispensable. C'est-à-dire que même le curé ne peut pas vous dispenser du jeûne eucharistique. Vous voyez ? Alors, il est de quoi ce jeûne eucharistique ? Il a été longtemps la veille. À minuit. Donc vous pouviez manger une minute avant minuit, et minuit, pile, tac, c'était fini. Minuit solaire, minuit comme vous voulez. Et donc, les personnes communiaient totalement à jeun, au point qu'il y avait des messes de communion à 7h du matin, et la grand-messe à 11h, où les gens ne communiaient pas, ils avaient communié à 7h. Mais pour ne pas défaillir, ils avaient mangé avant la grand-messe. Vous voyez ? Et donc, ce jeûne eucharistique est passé à 3 heures, avec Pie XII, et ensuite, avec Jean XXIII, il est passé à 1 heure avant la communion. Donc, à Saint-Eugène, vous pouvez manger un gros sandwich à 11 heures. Mais le terminer à 11 heures, parce que vous communiez à midi. Donc, vous avez eu 1 heure. Vous voyez ? Les plus malins calculent que c'est à midi 10 que vous communiez, donc pendant la messe, alors qu'elle a commencé, vous prenez un sucre exprès pour accomplir la loi de manière, légaliste. Mais vous péchez parce que c'est l'esprit de la loi, c'est pas de manger pendant la messe. Moi, je peux manger une heure avant la communion. Vous voyez ? Mais si c'est une messe qui dure une heure et demie, voire 2 heures, il est bien évident qu'on ne mange pas pendant une messe. Et je fais exprès de dire des bêtises pour vous faire comprendre que c'est en effet 1 heure avant la communion. Le prêtre, c'est 1 heure avant le début de la messe. et personne ne peut le dispenser. Maintenant, ça, ce sont les personnes en bonne santé. Des personnes malades, c'est un temps raisonnable avant la communion.
Donc, et l'eau.
Et l'eau, avant, rompait le jeûne eucharistique. Et depuis Pie XII, il ne rompt pas le jeûne eucharistique. Mais on m'a raconté des histoires assez, justement, un peu embêtantes, n'est-ce pas ? Vous aviez des demoiselles qui étaient dans des pensions catholiques, qui avaient la messe après, tout de suite après le lever, et lors de leur toilette, les religieuses étaient là, et leur disaient, surtout, quand vous vous lavez les dents, ne prenez pas une seule goutte, sinon vous communiez pas. Mais vous voyez, ça c'était excessif, je pense. Et si vous voulez, les querelles dans l'Église ne viennent pas que des laxistes. Hein. Il peut y avoir aussi des personnes un peu trop rigoristes. Alors, grande difficulté maintenant, c'est qu'on communie tout le temps. Donc, le discernement pour communier, voyez, il y a des personnes qui peuvent considérer, voyez-vous, qu'ils n'ont pas fait de fautes graves, mais qu'ils viennent d'avoir une grande colère le matin avant d'aller à la messe, et qui se disent, ben, je ne vais pas communier, alors que j'en ai les mains qui tremblent encore. Hein? On n'a pas trouvé les clés, c'était incroyable, on a accusé l'un, c'était pas l'autre, et puis on l'a trouvé finalement tombé derrière l'armoire, derrière le buffet, c'était la faute à personne, et voilà. Oui ?
C'est-à-dire qu'il ne vaut mieux pas communier chaque jour, alors ?
Comment ?
Il vaut mieux pas communier chaque jour.
Ben, si vous êtes suffisamment pieux et recueilli, vous pouvez communier chaque jour.
Ah,
ben oui, mais si vous voulez, mais c'est pas automatique de communier chaque jour. Il faut quand même être recueilli, et parce que c'est pas rien de communier chaque jour. Je vous assure que Sainte Thérèse de Jésus, avant d'avoir l'autorisation de communier chaque jour, elle s'examinait profondément. Hein. Vous aviez Saint Benoît Joseph Labre, qui était clochard, volontaire, ermite sur les routes. Il avait essayé la vie religieuse, il n'avait pas une assez bonne santé, tout ça. À la fin, il partait sur les routes. Et il mendiait. C'était un mendiant. Eh bien, ce mendiant, en se confessant, il disait tout, et les prêtres qui l'écoutaient disaient, il ne pêche pas, ou il a des fautes véniels, ou il confesse ses fautes. Et comme il était très régulier à l'assistance à la messe et en semaine, et qu'il se confessait régulièrement, eh bien, on demandait la permission au prêtre de communier. Et le prêtre disait, bon, mais si vous n'avez pas, vous ne considérez pas en conscience que vous avez fait une faute grave, vous pouvez communier pendant un mois, pendant 3 mois. Des religieuses pouvaient communier pendant 1 an. Vous voyez, parce qu'elle se confessait tous les 15 jours, par exemple. Mais on n'avait pas renouvelé la permission de communier. Vous voyez. Et bien, Saint Benoît Joseph Labre, avec ses vêtements rapiécés, tout ça, venait à la communion et communiait avec la permission de son confesseur, avec des personnes qui le regardaient comme ça, en disant, oh, ça perd l'hypopète quand même, c'est un mendiant, enfin c'est un errant. Comment ça se fait qu'il communie ? Et je peux vous assurer que personne n'osait communier sans avoir la permission d'un confesseur à l'époque. Et les gens avaient remarqué que Saint Benoît Joseph Labre communiait souvent. Ou il avait l'outrecuidance de communier sans la permission d'un confesseur, alors qu'il était un fainéant, n'est-ce pas ? Actuellement c'est à la mode, n'est-ce pas ? Ou un pauvre type, un type de rien, n'est-ce pas ? Eh bien, non. Son âme était droite et les prêtres lui donnaient la permission de communier. Et quand il est mort, il avait dormi sous un des portiques du Colisée. Je crois que c'est là qu'on l'a retrouvé mort. Et il y a un petit garçon qui est parti, ou un enfant qui est parti dans les rues en disant « Le saint est mort, le saint est mort ». Donc on est arrivé, tout ça, parce qu'il était très gentil, très bon, très doux. Mais il était mendiant. Mais jamais alcoolique, jamais. Enfin voilà. vivait de mendicité. Comment ?
C'est un péché mortel, la paresse ?
Non, parce que il... c'est pas qu'il a... il choisissait d'être pauvre. Hors franciscain, ou hors dominicain. Et il n'était pas insistant, ou il n'était pas... C'était une sorte d'ermite. C'était un ermite ?
Non, mais à la base, il était moine.
Oui, oui, oui. Mais il n'avait pas pu. Et voilà. Et le bon Dieu l'a voulu le signaler comme ça. Et donc, on l'a pris, son corps. On a fait la toilette du mort. Et des personnes malades, s'approchant de son corps, le touchant, étaient guéries. Et il y a eu toute une série de guérisons pendant plusieurs jours. Et donc, tout le monde venait. Et Dieu avait manifesté la sainteté de son serviteur. Donc, pour ce qui est de notre scrupule. Le scrupule, c'est un caillou dans la chaussure. Vous êtes en train de marcher et vous avez un caillou dans la chaussure. Alors, il est petit comme ça, et c'est bizarre, hein. Vous avez suffisamment de terminaisons nerveuses dans le pied pour que ça vous agace profondément. Alors, vous donnez un petit coup pour voir si ça peut partir sur le côté, tout ça, vous n'avez pas envie de retirer votre chaussure devant tout le monde, vous arrêtez dans la rue, et tout ça, enfin... Si vous avez des lacets, vous n'avez pas de lacets, enfin vous réfléchissez, comme un scrupuleux. Quand est-ce que je vais le retirer, mon caillou, vous voyez ? Il y a des personnes qui ont des gros cailloux, alors là, on s'arrête tout de suite, normalement. Mais non ! Spirituellement, il y a des personnes qui ont des gros cailloux, qui disent « j'ai un caillou ». Alors le confesseur, il dit « mais quel caillou ?» Ben voilà, je ne peux pas pardonner à ma mère qui a toujours préféré mon frère... Et vous lui pardonnez pas. Oui, vous, non, je lui pardonne pas. Et alors, est-ce que le Christ va me réprouver pour mais qu'est-ce que vous voulez à votre frère ? Vous voulez le tuer ? Vous voulez le vous venger ? Non, pas particulièrement. Mais je trouve que c'était injuste et tout ça. Mais vous regrettez. Mais vous êtes bien sûr de vous que c'est. Oh, non, mais ma mère est gentille, hein. Mon frère, il a des qualités, tout ça. Mais... Alors, Mais je pense que ça doit être grave, quand même, de penser qu'à ça. Oui, ça, c'est grave, oui, c'est grave, docteur. Mais, en soi, vous pouvez le regretter. Si vous voulez le dire à chaque confession, vous pouvez. Mais bon, essayez de considérer que c'est plutôt un souvenir... pénible, mais c'est pas forcément un péché actuel. Et donc, dans le scrupule, vous avez le péché, c'est quoi ? C'est un acte, une pensée, une parole, une action ou une omission qui a un être, hein, c'est un objet, c'est mentir, c'est frapper, c'est voler, c'est ne pas faire son devoir, ne pas travailler à quelque chose qu'on vous a demandé de faire et vous ne le faites pas. C'est être irrespectueux, insulter, c'est être sensuel et luxurieux. Il y a un objet à cet acte. Ensuite, est-ce que c'est grave ? Hein, la bille est passée de l'autre côté de l'arbre et vous l'avez aidée. J'ai gagné. Vous avez triché. Est-ce que c'est gravissime ? Est-ce que vous allez être damné parce que vous avez poussé une bille ? Vous voyez ? Ou est-ce que vous allez être damné parce que vous dites à vos parents : alors, quels sont les résultats de ton contrôle ? Mais 15 sur 20, oui, 15. Et vous avez eu 3, vous avez, voilà. Vous avez perdu votre bulletin de notes, vous voyez, c'est... Enfin, il y a des enfants qui sont terrorisés, hein, sur ce plan-là. Vous avez, quelqu'un vous bouscule dans le métro. Et vous lui dites, vous pouvez pas faire attention. Mais sèchement. Ensuite, votre mère vous bouscule dans l'entrée de l'appartement. Vous dites, oh, tu sais pas faire attention, t'es vraiment une idiote. C'est votre mère, hein. C'est pas quelqu'un dans le métro. Vous voyez, l'objet est différent. L'objet, en l'occurrence, c'est un être humain. Et c'est un être humain, là, qui est l'auteur de vos jours, hein. Donc, vous voyez, c'est, on donne toujours le même exemple. Vous avez une dispute dans une cour d'école et vous avez un enfant qui pousse l'autre, hein. Vous voyez, il le pousse dans la cour d'école, il recule d'un mètre, il se bagarre, voilà. Mais il le pousse dans l'escalier. Donc, oh voilà. Ou il le pousse par la fenêtre. Vous voyez. Donc, vous avez toujours le même acte, c'est pousser quelqu'un, mais les conséquences sont différentes. Ou alors, vous avez un différend avec votre maîtresse, vous vous levez et vous la poussez contre le tableau. Oh. Ben, c'est pas comme pousser un camarade dans la cour d'école, hein. C'est différent, hein. Je vous assure, il va vous arriver autre chose. Hein. Vous giflez votre maîtresse, vous voyez. Donc les actes sont différents par rapport à leur objet. Mentir sur l'heure de votre lever ou mentir dans un procès qui risque de condamner quelqu'un à des années de prison, c'est différent. Vous voyez. Mais pourquoi vous arrivez à 9h, on embauche à 8h? Ah, mais le bus était en retard, il a crevé, j'ai dû prendre le métro, il y a une panne électrique, on nous a fait sortir, on a marché dans les couloirs du métro. Oh là là, quelle aventure, oui, oui. Oui. Mais je l'ai vu ce soir-là, à 20h, rentrer chez la victime, et vous ne l'avez pas vu. C'est un mensonge, mais terrible. Oui. Donc il y a la gravité ou la légèreté d'un acte, mortel ou véniel. Oui.
Il y a pas même si on s'énerve envers quelqu'un qui critique l'Église, par exemple, ouvertement en cours, est-ce que c'est...
Grâce à Dieu, la colère n'est pas un péché mortel de soi. S'énerver, se mettre en colère, n'est pas en soi un péché mortel. Voyez. Par contre, en quoi ça devient un péché mortel? Mais quand vous déshonorez, insultez, hurlez sur quelqu'un, en public ou même en privé, vous sortez de vous-même, vous alliez la colère à la violence. C'est des degrés de péché. Oui. Eh bien, le mensonge. Alors là, c'est un autre. Je vous réponds très rapidement. Le mensonge n'est qu'un mensonge que lorsque c'est une parole fausse qui trompe l'intelligence ordinaire. La parole humaine n'est pas faite pour tromper. Lorsqu'on dit quelque chose, ça doit être vrai. Ou ça doit être ce qu'on dit. Et donc, le fait de dire quelque chose de faux est mauvais et contraire à notre nature humaine. Donc. Mais c'est quelque chose de mauvais uniquement si l'on trompe l'intelligence de celui qui est en face de nous. Par exemple, c'est le même exemple toujours, vous voyez, il y a derrière vous un escalier et il y a un éléphant qui est en train de descendre les marches. Qui fait 10 mètres de haut. C'est faux. Et ça ne vous trompe pas. Donc ce n'est pas un mensonge. On téléphone. On dit, j'aimerais avoir monsieur le directeur. Il est en conférence. Non, il est en train de prendre le café avec ses collègues. Et il n'a pas envie d'être dérangé. C'est tout. Mais la personne qui téléphone sait que Monsieur le directeur est souvent très occupé et qu'on peut lui répondre, et la secrétaire peut lui répondre quelque chose de faux et qui veut dire il n'est pas disponible. Alors, parfois, en soi, voyez-vous, c'est quand même un mensonge, c'est véniel. Voyez. Mais en justice, on sait que l'accusé n'a pas à se à avouer. Donc, quand un accusé dit « je ne l'ai pas tué », il ne pêche pas. Parce qu'il y a une convention, une coutume humaine qui fait qu'il n'a pas à se dénoncer. Et le défenseur doit le défendre. Oui, mais tout le monde sait que ça peut être faux. Donc ce n'est pas un mensonge. C'est un peu acrobatique, hein, ce que je vous dis. Et au point que Pascal a détesté ça. Lui disait, le mensonge, il le voyait net et clair. Les restrictions mentales, c'est-à-dire le fait que considérer que c'est, ça ne trompe pas vraiment la personne, donc ce n'est pas un péché, c'est une plaisanterie ou c'est une parole décalée. Hein, l'autre exemple, c'est vous êtes en voiture, vous avez 10 kilos d'or dans les jantes, pas dans le coffre, dans les jantes, vous roulez lourdement quand même, hein, c'est des jantes en or, épaisses. Vous arrêtez à la douane et le douanier vous dit, quand il y a une douane, vous avez une patrouille volante à Schengen, il arrive, on est à la douane et dit, vous avez fait passer de l'or? Ah non. Vous avez quelque chose à déclarer? Non. 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 C'est à vous de le prouver. Voilà la restriction mentale. C'est à vous de le prouver. Oui. Alors, donc les scrupuleux, eux, alors par rapport au mensonge, alors là, la restriction mentale, ils ne connaissent pas. Dès qu'ils ont dit quelque chose que leur conscience estime ne pas être tout à fait juste, alors là, ils ont trahi père et mère. Vous voyez, c'est le mensonge le plus terrible, oui.
Mais la restriction mentale, c'est pas une étape particulière, genre danger de mort.
Oui, normalement, oui. Mais on peut s'amuser à faire des restrictions mentales dans de très petits dangers, pour ne pas perdre la face. Ma renommée est plus importante que le fait d'avouer que je n'ai pas lu ce livre. Avez-vous lu ce livre? Mais oui, je l'ai lu, parce que vous n'avez pas à me poser cette question. Mais ça voudrait dire que la restriction mentale, c'est parce que vous n'avez pas à me poser cette question, vous êtes indiscret. Quelqu'un vous dit, combien avez-vous dans votre compte en banque? Ah ben j'ai 5000 euros. Sur l'ensemble de vos comptes, j'ai 5000 euros. En fait, vous en avez 128 000. Et là, pour le coup, il peut toujours courir le bonhomme pour avoir la vérité. Et vous ne lui mentez pas, puisque c'est une question totalement indiscrète et la vérité ne lui est pas due. Ah oui, oui. Ah ben, si vous demandez à quelqu'un combien il a en compte en banque, surtout en France. Alors là, en France, la vérité n'est vraiment pas due sur l'argent. Aux États-Unis, éventuellement.